Alors, nous abordons le troisième acte de cet atelier, et après Watteau, Boucher, voilà Chardin, il restera Fragonard et David à traiter les deux fois prochaines. Vous connaissez le plan de cet atelier. Nous commençons bien sûr par l'habituel petit portrait du héros du jour, Chardin, qui est d'ailleurs ici un autoportrait. C'est peut-être symptomatique d'ailleurs. Je vous fais remarquer que les deux dernières fois, les portraits de Watteau et Boucher, voilà, étaient faits par quelqu'un d'autre. Donc c'est peut-être finalement symptomatique. On verra. Et vous savez que le premier chapitre de cette séance concerne l'idée d'une première esquisse de chronologie, dont j'ai mis là pêle-mêle une dix-douzaine de diapositives d'œuvres de Chardin. Donc l'idée n'est pas de savoir si c'est lui ou pas, mais de savoir dans quel ordre on les met. Je vais donc vous les passer et on va essayer après de les remettre dans l'ordre. Ça nous permettra dans un premier temps de débroussailler un petit peu les choses et de commencer à entrer dans l'œuvre de l'artiste en voyant s'il y a une sorte d'évolution que l'on peut esquisser dans le travail de ce peintre. Donc je vous montre toute une série d'œuvres, une douzaine je crois. Et après, donc vous les intégrez bien, et après on essaiera de les mettre dans un ordre qui nous paraît le plus logique. Voilà, on commence. Voilà donc les 12 œuvres que je soumets à votre sagacité, que je sais aiguiser. Eh oui. Donc je vais vous les remontrer dans le sens inverse. Intégrez bien ça là, on les reverra une troisième fois. Et enfin, on essaiera de voir quel est l'ordre que l'on peut envisager pour ces différentes œuvres. On recommence ? Okay. Jamais 203, troisième regard, et après on s'y colle, d'accord ? Qu'est-ce que vous auriez à dire concernant une organisation possible, chronologiquement parlant, des pièces que je viens de vous montrer ? Vous mettriez ça dans quel ordre ? Ou est-ce que vous avez d'autres remarques pour classer un peu ces pièces ? Les natures mortes en premier. Toutes les natures mortes en premier.
Pas toutes.
Celles avec les instruments de musique, tout ça, là, c'est plus.
C'est un peu plus tard. On voit dans les natures mortes, on voit que certaines sont très simples et que certaines sont de plus en plus recherchées.
Donc on mettrait par exemple au départ plutôt les plus simples, c'est ça ?
Celles où il y a les fruits qui sont
les fruits. Il y a les fruits très simples, voilà. Celles où il y a un chaudron et la fontaine, etc. Voilà. Ça, on met ça au départ. Voilà. Et à la fin, plutôt celles avec des tas d'objets, etc. Il y a aussi, on a une où il y a un chien qui regarde. Oui. Voilà, au début, ça ? Donc pas à la fin ?
Non.
Ah ? Donc je vois qu'il y a des avis dissemblables. Donc j'entends que pour certains, on commence par la simplicité et on va vers la complexité, que pour d'autres, on commence par l'accumulation, etc., et qu'on va vers la simplicité.
Non. Ah. Mais entre les deux, je reste
Vous êtes plutôt pour ? Pourquoi, pourquoi
il a voulu le montrer au début de sa carrière, qu'il savait faire plein de choses, et après il a fait ce qui lui plaît, c'est-à-dire les jeux.
Donc vous seriez deux à envisager plutôt cette option-là. C'est-à-dire l'option, au départ, on accumule, etc. Et après, on simplifie. Parce que je sens qu'il y a deux... c'est peut-être effectivement les grands enjeux de ce qu'on vient de voir. Hein, je résume, il y a un peu deux idées. Il y a l'idée, on commence par une voiture assez simple, des choses un petit peu... Quelques objets, quelques prunes, quelques... Et puis voilà, après, à la fin, on accumule et on montre un peu son brio. Ou bien l'inverse, c'est-à-dire au départ, des compositions très pleines de choses, etc. Et à la fin, des choses très simplifiées. Il y a vraiment les deux idées.
Il y a deux types de peinture, je trouve. C'est une partie plus floue, enfin moins, et après plus de détails fins.
Plus travaillé.
Oui. Ouais. Ouais. Donc vous voyez une évolution aussi dans la manière de peindre.
Oui, les floues, c'est moi, personnellement.
Alors, il y a des natures mortes, mais il n'y a pas que des natures mortes.
Oui, il y a des personnages aussi.
Personnages, oui.
Il y a des personnages. De toute façon, il y a un autre. On ne peut pas toucher.
Ah, il y a un autre pour très vite et pas plus jeune. Donc, vous le mettriez où, ça? Au début, bien sûr. Ok. Oui, ça, c'est en effet important. Celui-là, il est fastoche. Donc, au portrait âgé, il est à la fin. Là, effectivement, par contre. Ça, celui-là, ah, on peut le caser sans trop de d'incertitude. Hein. Bien. Et au niveau des scènes de genre, vous voyez un peu un classement à faire, parce que pour les natures mortes, vous avez dit, hein, pour les scènes de genre.
Il y a une table dans un fauteuil, moi je ferai au début.
Une table dans un fauteuil. Plutôt au départ.
Oui.
D'accord. Une dame dans un. Donc ça, oui, une dame dans un fauteuil qui a l'air assez confortablement installée, là. Plutôt ça au départ. Hein. Ok. Et après, on vient plutôt vers les.
Vers le joueur
de
billard.
Oui.
Le billard.
Le billard, plutôt à la fin.
Oui. C'est là où il y a des hommes.
Oui, on voit pas mal de gens dans une salle en train de jouer au billard. Oui, bah, en fait, c'est effectivement des gens en train de jouer au billard.
Ah oui,
en dessous des deux sens. Mais ça, donc, plutôt à la fin, le billard. Hein.
Au milieu.
Ah, au milieu. C'est pratique, le milieu.
Mais non, mais comme elle n'est pas claire au niveau de... Elle n'est pas très compréhensible, enfin, pour moi, je la baisse pas dans les... quand il a toute sa technicité. Quoi.
D'accord, donc vous le verriez plutôt le billard au départ.
Oui.
Il y a une scène un peu confuse, pas très claire, un peu... donc plutôt au départ, à un moment où il n'est pas encore au top.
Des personnages petits aussi.
Pardon ?
Des personnages petits.
Oui, des personnages petits, effectivement. Comme d'ailleurs la dame assise, donc ça serait plutôt au départ. Hein, et on irait vers un personnage plus grand, plus occupant, plus la toile.
Après, il a une botte de pain, là, hein?
Pardon ?
La femme qui livre du pain, qui porte du pain.
Plutôt vers la fin.
Plutôt vers la fin.
D'accord.
Okay.
Donc je résume tout ce que vous avez dit. Au niveau des natures mortes, il y a deux écoles. Il y a l'école, Chardin commence par des choses très simples, il va vers des choses plus compliquées, plus composées, plus subtiles. Ou bien au contraire, il commence par les natures mortes qui montrent une sorte d'accumulation brillante de telles choses, et on va vers la simplicité. Hein. En gros, il dégraisse. Hein. Donc ça, c'est les deux idées, mais absolument opposées. Hein. Alors, je ne vais pas faire lever le doigt de qui pense A, qui pense B. Bon, là, j'ai bien vu qu'il y avait des deux. Il hein. Y a pour les natures mortes, l'idée qu'en gros, on va, depuis les œuvres un peu... D'abord, il y a des personnages un peu petits, hein, et des œuvres parfois un petit peu troubles, type billard, hein, ou bien type femme assise dans son fauteuil, donc c'est-à-dire un petit format, etc., donc on est plutôt au départ, et Chardin va plutôt, à la fin de sa carrière, vers des personnages en buste, plus grands, qui jouent aux cartes, je crois qu'il y en a, hein, voilà, hein. Et puis on a vu qu'il y avait, vous avez également cité sur le fait qu'on sentait un peu confusément, mais quand même, une évolution de la technique picturale.
Oui, hein, la finesse.
Qui allait, alors, par contre, vous trouvez que ça allait plutôt vers la finesse. Enfin, vous avez l'impression que... Parce que vous parlez de finesse. Pardon ?
Vers la simplification.
terme de simplification.
Ouais, mais alors, simplification, il y a plusieurs manières de voir ça. Quand vous pensez à simplification à la finesse, vous pensez que c'est plutôt plus fin au départ, plus flou à la fin. Comment est-ce que vous...
Plus flou au début et plus fin à la fin.
D'accord. Donc, ça irait assez bien avec l'école A de la nature morte, c'est-à-dire au départ des choses assez simples et après des choses plus recherchées, plus fouillées, etc. Hein? Ok. D'accord. Est-ce que j'ai bien résumé Oui.
Si on a l'hypothèse où c'est l'inverse, ça devient de plus en plus simple, est-ce qu'il n'y a pas un raccordement à faire avec les impressionnistes?
Les impressionnistes, c'est quand même carrément beaucoup plus tard.
Bien sûr, mais...
Je ne sais pas si on peut dire que les impressionnistes, ils synthétisent tant que ça, moi.
Ah bon, d'accord.
Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire que c'est si synthétique que ça, l'impressionnisme, vous voyez. Certains peut-être, mais quand on voit la facture de la touche, quand on voit des œuvres, je ne sais pas, de Pissarro, de Renoir et autres, quelquefois c'est très complexe, hein, vous voyez. Non.
Oui, d'accord. Il y a l'école de la photographie, puis l'école de...
Oui. Alors bon, c'est un peu difficile quand même à transposer, on est à... un siècle et demi de distance, à peu près.
Bien,
donc voilà, c'est un peu un grand écart. Alors, je vois bien ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'on aurait finalement une courbe, alors je ne sais pas si c'est l'ascendant, mais qui est un peu équivalente. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on va vers la simplicité formelle. C'est ça peut-être que vous voulez dire.
Ouais.
Donc Chardin ferait ça, comme le font plus tard les impressionnistes. Ouais. C'est ça que vous voulez dire. Ouais. Moi, enfin, je ne sais pas vraiment si les impressionnistes, on peut dire qu'ils vont vers une simplicité formelle. Mais bon, voilà, c'est... ce sera un autre débat une autre fois, dans un autre atelier. Bien. Alors, on va peut-être voir le résultat des courses. Hein. Alors, en fait, le tableau le plus ancien de la série, en tout cas, quelques-uns d'entre vous l'ont vu, c'est ça. Effectivement, c'est la partie de billard, qui est effectivement un tableau assez différent des autres. Hein. Vous avez une foule de personnages, c'est pas... ça vous fait penser à quoi, genre de peinture, d'ailleurs ?
À le truc de Gersin.
À l'enseigne de Gersin de Watteau. Un peu, oui. Le truc de Gersin. Oui, l'enseigne de Gersin de Watteau. Je vois ce que vous voulez dire. Et, mais au-delà de ça, ce type de peinture vous ferait penser à quoi ?
Une étude de perspective.
Oui. Mais si vous en pensez à l'histoire de l'art, vous, je ne sais pas, ça vous fait penser à quoi, ça ? À rien ? Pardon ? Oui, voilà, je crois effectivement, ça peut faire penser... Alors, les costumes ne sont pas les mêmes, ça, mais ça peut faire penser à la peinture flamande, c'est-à-dire ces scènes de genre flamande. Ça, on a d'ailleurs les couleurs aussi. Hein. On a les couleurs un peu marronnasses, quelques un peu de rouge, etc. Et puis le fait de voir cette espèce de scène de genre avec des tas de personnages, c'est très pittoresque. On est là dans quelque chose au début du XVIIIe, hein, qui fait effectivement beaucoup, beaucoup penser à la peinture flamande. Hein. Manifestement, Chardin a beaucoup regardé de ce côté-là. Hein. Et on a là une sorte de transposition par un artiste français au XVIIIe siècle des œuvres de la peinture flamande du siècle précédent. Hein. Donc effectivement, il y a un côté très flamand. Alors, entrons dans les natures mortes. C'est là qu'on va voir si c'est l'option A ou l'option B qui a raison ou tort. Attention, eh bien, c'était l'option B qui avait raison. C'est-à-dire qu'on commence plutôt par le compliqué pour aller vers le simple. Je dis bien plutôt parce qu'il y a quand même des exceptions qui confirment la règle. Mais là, vous avez une œuvre qui est tout à fait au départ. D'ailleurs, qu'est-ce qui peut vous faire penser qu'on est là vraiment plutôt au début du XVIIIe que plus tard ? Alors, on ne va peut-être pas aller vers les impressionnistes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, là, peut vous donner des indices, des idées, qu'on est vraiment plutôt au début du XVIIIe que plus tard, qu'à la fin du XVIIIe ?
Paysage,
non ? Oui. Quand je vous pose cette question, c'est est-ce que, en comparant ça, c'est un petit peu comme pour la scène précédente, hein, si on compare ça à ce qui se fait à l'époque, en France, est-ce que ça vous rappelle des choses ? Est-ce que... Non ?
Non. Ça ne vous rappelle rien de spécial.
Audrey.
Ah, c'est qui Audrey? C'est quoi? Oui. Oui. Alors, effectivement, Audry est un peintre qui a fait quoi?
Beaucoup d'animaux.
Des animaux, oui, des animaux, des animaux.
Des chiens.
Oui. Que ça?
Ah non.
Qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore? Audry est effectivement un peintre animalier. Hein. D'accord. Donc, il a peint beaucoup d'animaux, une fois très exotiques. Et qu'est-ce qu'il a fait encore?
Des scènes de chasse.
Des scènes de chasse. Donc, animaux, scènes de chasse. C'est déjà pas mal. Audrey a fait beaucoup de nature morte aussi. Hein. Il est seul?
Non.
Vous connaissez personne? Parce que Audrey, vous le placez avant, pendant, après Chardin?
Avant,
un petit peu avant, oui. Et il est à peu près contemporain, mais un petit peu avant, si ma mémoire est bonne, effectivement. Et que veux-je dire? Vous connaissez d'autres gens qu'on pourrait rapprocher de Audry et... Non? En tout cas, alors, si vous ne connaissez pas, bah, peut-être qu'on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Mais comment vous définiriez, comment vous caractériseriez une peinture, une nature morte telle que celle-là?
C'est très classique.
Ouais.
Non, c'est pas vraiment une nature morte comme on l'entend. D'habitude, la nature morte, les bêtes sont toutes sur un plan déposées un petit peu partout.
C'est une nature morte.
Dans
la
nature, c'est dans la nature même,
oui.
Avec un animal vivant qui est le chien.
Oui.
Donc c'est pas mort. C'est pas tout à fait pareil que cette nature morte.
Oui, c'est une nature morte qui n'est pas enfermée dans une salle, etc. Oui, ouais. Si vous aviez à donner des adjectifs pour caractériser, pour qualifier ça, imaginez que je suis au téléphone, au bout du monde, j'ai pas cette photo sous les yeux, vous devez me caractériser, vous me diriez quoi?
Une scène de chasse.
D'accord, mais ça, voilà, donc moi je veux une scène de chasse, je vois un chasseur avec un fusil qui est en train de tirer sur les canards. Ah, la fin, donc déjà, voilà. Un retour de chasse, bien. Donc je vois un chasseur assis là, chez lui, devant le feu, avec trois canards sous les pieds. C'est bien ça?
Non.
Ah non.
Il les pose à la cuisine avant de se mettre devant le feu. C'est un massacre.
C'est un... Alors, ce qu'on appelle un massacre, c'est plutôt des éléments... c'est la partie supérieure du crâne d'un animal avec les cornes correspondantes, hein. On dirait plutôt un trophée, voilà, hein, un trophée de chasse. Et justement, je sais pas, moi je dirais, une nature morte de retour de chasse, il y a trois solutions. Soit vous mettez, comme vous le disiez, un peu une table, puis vous mettez vos trois lièvres et votre perdrix côte à côte, soit vous faites un trophée de chasse à l'extérieur, n'est-ce pas, un truc qui déménage, quoi, hein. Là, si vous voulez, vous avez non pas trois trucs sur une table côte à côte, hein, vous avez tout un décor, une organisation, une mise en scène. Vous voyez ? C'est pas du tout, effectivement, tout à l'heure, là, vous nous disiez, tiens, c'est bizarre, comme nature morte, c'est pas dans une cuisine avec trois trucs. Effectivement, là, il y a une mise en scène, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que vraiment, vous voyez, il a mis en scène un corps sur un arbre, il y a des animaux qui pendouillent, il y a le chien qui regarde à gauche, donc on voit déjà extérieur, tout ça dans un paysage, c'est une mise en scène, hein. On est devant une mise en scène. C'est pas seulement une nature morte avec trois canards sur une table. C'est vraiment une mise en scène à la nature morte avec des objets liés à la chasse, etc. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. Et cette espèce de mise en scène un peu grandiose, ça peut vous évoquer quoi ? On est en 1725. Hein. Pardon ? Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher en Angleterre ? Ben voilà ! Louis XIV ! Vous êtes déjà allé à Versailles. Oui. Versailles, c'est pas vraiment une ferme de Bresse. On est d'accord. On est d'accord. Vous avez vu la Galerie des Glaces?
Oui.
La Glace, c'est une mise en scène énorme, la plus longue d'Europe. Elle détruit de tous les côtés. Ben, c'est ça. Ce que vous avez là, c'est la Galerie des Glaces, naturellement. Il y a deux liens pour la vertèbre de chasse. Soit vous mettez encore une fois trois machins sur une table, puis c'est bon. Terminé.
Là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que là, au début de sa carrière, Chardin, il est, si vous voulez, encore, il sort sur la vague du siècle de Louis XIV. On est encore là-dedans. On est encore là-dedans. Oudry ira sur un peu les mêmes brisées. Un autre peintre que je voulais vous faire dire, mais il viendra peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a, au début de l'époque de Chardin, du Blacquerat de Chardin, espèce de manière chez lui de continuer, si vous voulez, dans espèce de mise en scène grandiose. C'est le siècle de Louis XIV qui continue. Louis XIV est mort il y a 10 ans, mais on est encore là-dessus. Hein, de toute façon, il y a eu l'agence, etc. Hein, on est encore, vous voyez, dans les grandes mises en scène, hein, les grandes affaires, très... Ça, vous mettriez ça, alors que le Galerie des Glaces, ça, ça passerait inaperçu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose. Alors, le Galerie des Glaces, des scènes allégoriques, etc. Mais on est dans le même vocabulaire. Si vous voyez ce que je veux dire?
Si on s'en tient au titre, si le titre est de Chardin, c'est le chien le sujet, pas le reste.
Alors le titre n'est pas forcément celui de Chardin.
Ah oui, d'accord.
Mais puis là, évidemment, l'image est capitale. Je veux dire, on est là dans quelque chose qui vraiment correspond à ces mises en scène spectaculaires. On est à Versailles, pourrait-on dire. Alors après, il y a cette nature morte-là, où là, vous voyez, Chardin, pouf, il baisse d'un ton, quoi. On n'est plus dehors, on a un paysage obscur où le soleil se couche, etc. On n'est plus dans une mise en scène spectaculaire. On nous amène dans la cuisine, complètement différent. Et donc, on l'avait remarqué ça tout à l'heure. Hein. On n'est plus à l'extérieur. Hein. Donc déjà, pouf, ça baisse d'un cran. Puis on n'est plus à nous montrer un corps de chasse, un chien qui est à l'extérieur, un trophée d'animaux pour eux. On est là, dans la soupe en cuisine, et on montre un torchon, plus ou moins propre, avec un chaudron et un chou-fleur.
Une accumulation.
Mais une accumulation de vous voyez, on n'est pas dans l'espèce de chic du corps de chasse avec le lièvre qui pend et trois perdrix un peu avec les ailes qui s'ébattent. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans le fond d'une cuisine de Madame Tout le Monde, quoi, hein, d'une bonne bourgeoise qui va faire une potée. Quoi. Voilà. Pardon?
Il y a un chou.
Voilà. Donc, mais vous voyez, on n'est plus un peu lièvre qui pend. Il y a donc un côté là, pouf, on rentre dans la cuisine. Alors il y a l'accumulation, vous avez raison. Hein. Ce qui fait qu'on voit, et on commence à voir dans des œuvres telles que celle-ci, que vraiment Chardin, il va effectivement dégraisser. Plus il avance dans sa carrière, plus il dégraisse. Alors on va voir qu'il y a des exceptions qui confirment la règle, hein, mais quand même, il va de plus en plus vers des sujets de plus en plus triviaux. Il sort la grande galerie de Versailles, vous voyez, qu'on a vu tout à l'heure, entre guillemets, hein, avec des trophées de chasse, des paysages extravagants à l'extérieur, et nous amène dans le fond de la cuisine et monte, pouf, une fontaine, comme tout le monde dans la chez soi. Il avait l'affaire, hein. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à un robinet. Quand vous irez ce soir faire cuire aux nouilles, vous allez, tiens, voilà un sujet qui intéresse Chardin, tant de pas. C'est ça. Mais Chardin, il s'intéresse à des choses vraiment quotidiennes. Quotidienne, vraiment ce qu'il y a dans la cuisine. Voilà. Hein, au départ, il sort sur l'idée du grand siècle, le XVIIe siècle, et là, bah, de plus en plus, il va aller vers une sorte de trivialité, mais pour en montrer toute la poésie. Alors, effectivement, en ce qui concerne les personnages, il va, vers l'une de sa carrière, réaliser comme ça toute une série de toiles, qui sont en même temps souvent des portraits, mais des portraits mis en scène. Et souvent, en Chardin, vous voyez, il ne fait pas un portrait avec quelqu'un chaud qui est... Mais souvent, d'ailleurs, on voit plus quelle est la scène que le portrait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que longtemps, on a appelé ça le petit violoniste, puis on sait aujourd'hui que c'est Charles Godefroy, qui était le fils, enfin l'un des fils d'un ami de Chardin qui était, je crois, orfèvre. Bon, c'est donc Charles Godefroy, mais ce qui est intéressé aussi, c'est la présentation de la scène. Vous voyez? Et donc, Saint-Chardin, on a fait toute une série, souvent là aussi en buste, et allant effectivement vers une certaine, là aussi, simplicité, vous voyez, hein, de plus en plus. Et puis, on va trouver aussi toute une série de petites scènes, comme ça, qui, là aussi, nous emmènent, vous voyez, loin des atours brillants d'une scène de billard ou quelques cabarets chics parisiens, mais dans la cuisine, avec des scènes comme celle-ci, ou comme
en goûte d'autres. Et alors, plus il va vers la fin de sa carrière, plus également il nous fera rentrer de la cuisine au salon, comme des œuvres comme ça, mais qui sont plutôt, vous voyez, vers le, on va dire, la deuxième partie de la carrière de l'artiste. Hein, et où il nous invite. Alors, Chardin n'est pas le peintre de la haute noblesse, voilà, c'est plutôt le peintre d'une bourgeoisie honnête, pourrait-on dire. Hein. Ce n'est pas la petite bourgeoisie ni la très haute, c'est une bourgeoisie convenable, voilà, la sienne, en fait. Hein. Et il nous montre des scènes comme ça. Il va, si vous voulez, décidément, de la cuisine au salon. Mais un salon d'un hôtel convenable, mais qui n'est pas inouï. Hein. Je crois qu'on le ressent bien dans un tableau tel que celui-ci. Et Chardin n'abandonnera jamais la nature morte. Mais vous voyez là que c'était d'ailleurs une des choses qu'on peut dire par rapport à son style. Vous voyez que là, on est vraiment dans la simplification de plus en plus. Hein. Même si la manière de peindre n'est plus forcément la même, et vous l'aviez remarqué tout à l'heure, hein, on est là dans une... Enfin, vous savez, Chardin est quelqu'un qui peignait extrêmement doucement. Hein, tellement doucement que quelquefois, quand il peignait un fruit ou un animal mort, il peignait tellement longtemps que les choses pourrissaient avant lui qu'il termine la toile. Voilà. Donc c'était un peu compliqué, parce que c'est un... Pas quelqu'un qui brosse, hein, c'est pas Fragonard, mais quelqu'un qui va faire un truc. Chardin, il met un temps fou à faire un glacis sur une pêche, à faire trois éclats de lumière sur le verre, etc. Ce qui est bien, évidemment, des tableaux qui sont comme ça, des espèces de je sais pas, des tableaux, des lacs presque, hein, où on rajoute des petites choses en permanence. Il ne va jamais arrêter, si vous voulez. Donc ça donne des choses comme ça, qui sont de plus en plus simples. Vous voyez, là, finalement, vous avez un triangle et un rectangle, voilà, et deux cercles, hein, c'est ça. Hein. C'est presque monochrome, il y a de moins en moins de choses. Et pourtant, il y a une espèce de subtilité extravagante, hein, de la manière de présenter les choses. C'est pour ça que Chardin, d'ailleurs, a eu, dès le XVIIIe siècle, un succès considérable. Hein. Le peintre du XVIIIe siècle français, célèbre à l'extérieur, c'est le son de Chardin, tout le monde en voulait. Hein. Catherine de Russie, le roi de Prusse, enfin vraiment, il fallait avoir des Chardins. Hein. Chardin est le peintre apprécié. Alors évidemment, aujourd'hui, vous savez comment on est, nous, si on n'a pas des trucs de 15 km de long par 3 de large, on ne regarde pas. Or, 3 prunes dans un panier, ça n'intéresse plus personne. Mais si vraiment on regarde à quel point c'est fait, et là on voit. Pardon ?
C'est magnifique.
C'est extraordinaire. C'est absolument magnifique. Évidemment, vous aviez tout à l'heure raison de parler, je crois, de la manière de peindre. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a des exceptions qui confirment la règle. Parce que Chardin a une... Pardon ? Oui, Chardin a à vrai dire, eu un tel succès. Parce que Chardin est vraiment un c'est l'anti-Boucher, si vous voulez. Hein. On appelle Boucher, qui a un carnet de commandes énormes. Tout le monde veut aussi son Boucher, etc. Sauf que Boucher, à la fin de sa vie, va commencer à avoir un peu des... Enfin, voilà, il passe un peu de mode, si vous voulez. Chardin, ça va être un peu l'inverse. Chardin qui fait son trou dans son coin. Chardin, il habite à Paris, il est né à Paris, il meurt à Paris, il fait ce petit tableau tranquille dans son atelier avec sa femme. Pouf, on l'embête pas, il a pas des, il est tout seul, hein, il n'a pas des tas d'aides qui l'aident à faire les peintures et à préparer les toiles. Chardin, il fait son business lui-même. Hein, voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui va avoir une carrière comme ça, en ascension, mais de plus en plus, c'est tranquille, je dirais. Hein. Et il est de plus en plus apprécié. Et de plus en plus, on va lui commander des choses, et le roi lui-même. Hein. Et un certain nombre de grandes familles, de grands personnages aussi. Ce qui fait que dans la deuxième partie de sa carrière, il va avoir une série de commandes. En voilà deux. D'ailleurs, je vous en ai mis deux. Vous n'aviez pas trouvé qu'elles allaient ensemble, d'ailleurs. Celle-là et celle-là. En fait, c'est deux tableaux qui sont au-dessus de portes, qui vont ensemble, deux pendants. Et voilà. Alors évidemment, pour cette clientèle qui apprécie beaucoup Chardin et qui veut quand même en avoir pour son argent, hein, parce que quand on est le roi Louis XV, on ne va pas non plus avoir un poireau sur un support. Il faut quand même un peu autre chose. Hein, un poireau ou un chou. Et pardon ?
Maintenant, la mode, c'est une banane collée avec...
Ah, peut-être. Mais là, si vous voulez, quand il a des commandes de Louis XV ou de tel haut personnage, il faut quand même de l'échange. Hein. D'où le fait qu'on a là, vous le voyez, des choses un peu pleines. Quoi.
Et bien voilà, tout ça se termine effectivement par l'autoportrait âgé qui est tout à fait à la fin de sa vie. Pardon ? Oui, oui, absolument. Est-ce que cette évolution pour vous vous paraît un peu plus claire ? Ouais. Ouais, ouais. Bien. Alors maintenant, on va aborder la deuxième partie de la séance, c'est-à-dire que je vais vous passer une vingtaine d'œuvres et qu'on va regarder rapidement, on va commenter au fur et à mesure. Hein. Et là, je les ai mis chronologiquement. Chaque fois, vous avez en plus le cartel. Hein, je vous mâche le boulot. Hein. Et ah ouais, ouais, je trouve que vous voyez, moi,
merci.
Voilà. Et voilà, on va gentiment parler de ces œuvres au fur et à mesure. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous diriez de ça? Pardon.
Ouais.
Ah, c'est encore une nature
un petit peu mise en scène.
Oui.
Mise en scène.
Ah oui. Ça vous rappelle quoi?
Le chien.
Voilà. Je crois que c'est vraiment une œuvre qui est très très proche. Alors c'est pas à l'extérieur, d'accord, mais il y a aussi une sacrée mise en scène. Hein, et une très grande mise en scène. Vous voyez que la nappe, il y a une espèce de socle de marbre, on devine des décors à l'arrière, il y a une espèce d'éléments en argent sur lesquels sont posés des tas de choses, toute une vaisselle précieuse. Encore une fois, c'est Versailles. Quoi. Voilà. Donc voilà une œuvre qui est vraiment à mettre au début de la carrière, on est proche de la mise en scène extérieure qu'on a vue tout à l'heure. C'est clair pour vous ça?
Oui, très simple.
Un des tableaux les plus célèbres. Pourquoi?
Ah, il y a la raie.
Il y a la raie.
Elle est au milieu.
Elle rigole.
Ouais.
C'est très curieux.
Ouais.
Le chat est génial.
Ah oui.
J'adore
ouais.
Le chat.
Ouais.
Le chat.
Ouais. Je me rappelle un des miens.
Oui. Vous les nourrissez avec les huîtres ?
Pardon ?
Vous les nourrissez
avec les huîtres ? Les jours, ils sont gentils, oui. Et puis pour Noël. Mais oui, alors voilà. Oui, donc ce tableau a été super célèbre. Hein, il est toujours. C'est un des chefs-d'œuvre de Chardin. Il y en a beaucoup, mais enfin, c'en est un. Peut-être des raisons de sa célébrité. Alors vous avez dit, c'est extraordinaire, c'est formidable, c'est incroyable. Il y a une raie, ok. Mais bon, voilà, qu'est-ce qui fait aussi que c'est un tableau étonnant, quoi.
Il y a une composition très rigoureuse, tout en étant un peu folle.
C'est ça. C'est, effectivement, on est encore au début de la carrière de Chardin, hein, et on voit, finalement, tout est dit. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit bien qu'il vient de Versailles, on se voyait tout à l'heure, parce qu'il y a une raie, il n'y a pas d'image de la nature qui donne des raies, mais si on puisse représenter une raie, c'est pas possible, quoi. D'abord, c'est un truc comme ça, très photogénique, une raie. Hein. Pardon ? Écorché, en plus. Hein. Et puis, en plus, comment voulez-vous montrer l'aspect nacré de la peau de la raie ? C'est horriblement compliqué.
Il y a trois sortes de blancs.
Ben oui, c'est...
Le blanc du chat,
oui.
Le blanc de la raie,
oui, blanc oui. Et les blancs, je crois que ce que vous disiez est très juste. On est là, dans une espèce de foutoir extravagant. Enfin, on voit bien qu'on est dans la lignée de ces natures mortes que j'appelle versaillaises, hein, qu'on avait vu précédemment. C'est chic et c'est spectaculaire, si vous voulez. Hein. Et en même temps, on voit de plus en plus comment Chardin s'intéresse à simplifier les choses. La composition est assez impeccable. On sent bien qu'il y a un peu de tout. Quoi, hein. C'est encore très compliqué, très construit, très spectaculaire, mais déjà... on sent la simplification à venir, si j'ose dire. Et l'espèce de qualité, vous avez dès le départ hein, insisté sur la manière de peindre. Quand on voit l'extraordinaire complexité, encore une fois, la manière dont la peau de la raie est rendue, c'est fou, quoi. C'est un boulot dingue, mais de quelqu'un qui, encore une fois, est là, qui ajoute trois touches, qui en met une. Chardin, c'est ça. C'est un peintre laborieux, dans le bon sens du terme. Vous savez que ce tableau a été, en son temps, tellement célèbre et tellement apprécié qu'il a permis à Chardin d'être au même moment hein, à la fois agréé à l'Académie et reçu. Parce que vous savez qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, hein, l'Académie, l'Académie royale de peinture et de sculpture. Bon. Et tous ceux qui comptent, tous les artistes qui comptent, rêvent d'entrer dans l'Académie. Pour ça, il faut présenter un morceau de réception. Et avant ça, il faut présenter une autre œuvre qui permet d'être agréé. Vous êtes d'abord agréé, ensuite reçu. En général, on est d'abord agréé, ok, vous montrez un tableau, on dit oh, ben, c'est bien, etc. Et puis après, un an après, deux ans après, vous faites un morceau de réception qui là fait que, paf, ça y est, vous êtes vraiment dans l'académie. Là, avec ce seul tableau, il a été et agréé et reçu au même moment. C'est un cas rare ici. Donc, si vous voulez, on a vu au début du 18e l'extraordinaire innovation d'un tableau comme ça. Il est pleinement du passé, c'est Versailles, encore une fois, hein, et il est déjà du futur. On sent bien qu'il y a là-dedans ce qui va faire l'incroyable succès de Chardin, c'est-à-dire quelque part ça. Pardon, je vais trop vite. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous auriez à dire ?
Ça, c'est simplifié.
C'est simplifié. Alors, on n'est pas tellement après. Hein. Vous voyez que...
C'est
voilà.
La matière qui ressort.
Oui, oui. Matière. Ça, décidément, dès le départ, un tel ou tel d'entre vous avait insisté sur la manière de peindre, sur la matière. Et ça, chez Chardin, c'est fondamental. C'est-à-dire que la qualité de la touche, la manière de... C'est une espèce de petit détail. Ça, c'est capital.
C'est très
débrouillé. Pardon ? Oui.
Pour mettre en valeur les matières.
Ouais. Et qui sont, vous voyez, des bricoles. Enfin bon, il y a un gobelet en argent, d'accord, mais autrement, il y a trois pommes et une carafe. Quoi, hein.
Des pommes sur la tête.
Ah, c'est le genre d'effet qu'il adore. Voilà. Et là, c'est encore assez, j'allais presque dire, c'est encore assez baroque. Hein. Précisément, ce que vous avez un gobelet en argent qui donc reflète ce qu'il y a devant lui. Puis en même temps, vous avez deux niveaux, enfin, parce qu'on va avoir des choses encore plus floues, encore plus simplifiées. Hein. Mais on voit qu'assez vite, hein, on est là vers 1728, c'est tôt, hein, il travaille des choses avec une grande simplicité. Et là, qu'est-ce que vous auriez à dire ?
Très bien composé.
Oui.
C'est une orange.
Qui est assez habillé, c'est un peu plus. Voilà, c'est que on sent, si vous voulez, que. Voilà, oui, alors c'est peut-être plus à ça, mais il y a un côté encore un peu mouvementé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'espèce de très grande simplification, parce qu'on a vu tout à l'heure dans le premier exercice, hein, que Chardin, c'était on va du compliqué et on part du compliqué, on va vers le simple. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des espèces d'à-coups, si vous voulez. Hein. Or, on voit que cette œuvre-là est postérieure à la précédente et elle est plus, entre guillemets, compliquée. Vous voyez, vous avez là, il y a des effets, les oiseaux sont pendus, etc. Il y a quelque chose d'un peu plus mouvementé que la précédente. D'ailleurs, on continue avec ça. Et pourquoi ? Et voilà, c'est une commande. Ça, c'est une commande. Donc, sur les Chardins, il faut quand même bien vivre, hein. Et Chardin, il y a des moments où il accède à des commandes, et il faut dans les commandes satisfaire le commanditaire, c'est-à-dire donner dans un peu le flonflon. Et vous voyez que qu'est-ce qui montre ça ? Ce côté un peu... Le rigaud derrière, par exemple. Le bas-relief, en trompe-l'œil.
Et puis le singe,
le Wistiti qui est là au premier plan.
Le buste.
Le buste. Voilà. Donc on voit qu'il y a une espèce de surenchère de vocabulaire qui montre que d'un côté, dans l'ombre de son atelier Chardin, il travaille sur une sorte d'épuration des formes, des lignes, des couleurs, etc., tout en soignant en permanence la touche, la texture des choses. Hein, voilà. Mais évidemment... y a aussi les commandes, il faut répondre à la demande, il faut vivre, et voilà, et donc il est aussi capable de faire ça, c'est-à-dire de il a une vie parallèle. Je crois qu'on voit bien avec les attributs des arts. Et en même temps, il y a ça qui arrive. Pardon ?
C'est pas le même titre
des
deux tableaux.
C'est pas.
Ah, c'est le même titre.
Ah, pardon. Pardonnez-moi, j'ai oublié de changer ça. C'est quelquefois, passons d'un titre à un autre. Non, c'est pas les attributs des arts. C'est naturellement tout chaudron. Par contre, c'est bien l'objet que j'ai acheté. Mais voilà, oui. Donc, vous voyez, c'est. Là, on est vraiment dans l'antithèse de ce qu'il y a.
Les matières, le bois.
Ouais. Et puis là, vous n'avez pas un buste en marbre, un ouistiti, et je ne sais pas quoi, en argent. Hein. C'est vraiment des objets tout à fait quotidiens, domestiques, et je dirais sans valeur. Et qu'est-ce que vous me diriez de ça ? Alors, c'est, absolument, vous dites c'est presque Vermeer. On a souvent fait le parallèle. Alors, c'est pas la même période, c'est pas le même pays, etc. Mais c'est vrai que l'un et l'autre sont des espèces de poètes de l'intimité, finalement. Hein. Il nous faut rentrer, quand il présente des personnages, hein, du moins Chardin, il nous faut rentrer dans la vie quotidienne de cette moyenne bourgeoisie parisienne, on va dire. Hein. Et c'est ce que l'on voit ici. Hein. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire, là ? Alors oui, il y a une petite touche un peu orientaliste. J'allais presque même dire peut-être russo-oriental.
C'est à cause de la coiffe ?
Oui, et puis ce vêtement fourré, doublé d'une fourrure. Pardon ?
Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage.
Ouais.
Il n'y a pas de chauffage.
Je ne vois pas de chinoiserie, non, mais l'orientalisme, il peut être... voilà, ukraino-russe, encore une fois. Et puis, quoi d'autre ?
Puis on a les objets du quotidien.
Oui, oui.
Une cuisine ordinaire.
Mais c'est pareil, il est en activité.
Oui, voilà, c'est-à-dire, c'est effectivement un portrait. C'est le portrait du peintre Havel. Havel, vous devez le connaître, parce qu'il y a en Bourgogne un très célèbre portrait de Havel. Vous connaissez tous, je pense, le portrait de Jean-Philippe Rameau, qui est au musée des Beaux-Arts de Dijon. Hein. Bon, vous connaissez tous Rameau, qui est quand même la gloire française de la musique du XVIIIe. Hein. Bon, immense artiste. Hein. Et il est né à Dijon, Rameau. Hein. Chez nous. Hein. Le portrait de Rameau, qui est au musée des Beaux-Arts de Dijon, est une œuvre sans doute de Havel. Donc, vous voyez, Havel est un artiste très proche de Chardin. Et donc ça, c'est le portrait de Havel. Et donc, évidemment, vous avez raison, Havel ne nous est pas montré comme ça, posant devant la toile. Il est montré là, en plus, effectivement, une sorte de mise en scène un peu exoticisante, et en plus, en train de lire. Enfin, voilà, c'est une scène. C'est pas simplement un portrait, c'est une scène.
On a l'impression qu'on pourrait prendre le livre tellement il est...
Ah oui. Oui. Ah oui, ça, c'est le... C'est vraiment la qualité de Chardin. Et ça, vous voyez aussi que le fait de représenter des personnages comme ça n'arrive pas absolument au départ dans la carrière de Chardin, ça arrive assez vite. Mais vous voyez qu'il a fallu quand même une trentaine d'années pour que Chardin se mette à faire des personnages. Mis à part la scène de billard, mais qui est décidément très singulière. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire, là ?
C'est un petit peu rapproché avec l'autre tableau que nous avons eu au départ, où il y avait la dame dans son intérieur, en train de lire.
Vous trouvez que c'est pareil ?
Ben, je ne sais pas. C'était simplement, donc c'était un intérieur bourgeois simple. Là aussi, on voit la façon dont elle est vêtue, ce mobilier. Mais ça fait plus portrait, là.
Alors, je pense aussi, c'est-à-dire que je vois bien ce que vous voulez dire quand vous rapprochez les deux. C'est vrai, on est dans une intimité bourgeoise. Hein. Simplement là, on est dans quelque chose qui... Le tableau que vous avez allusion montrait la salle, un petit tableau d'ailleurs, hein, des tableaux de cette taille-là, montrer la salle entière dans laquelle elle est, on voit le personnage en pied, etc. Là, effectivement, c'est beaucoup plus cadré. Ça fait en fait beaucoup penser au portrait de Havette, que vous avez, sauf que là, c'est une femme, elle est un homme, mais vous savez, on pensait à ça. Mais on a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un portrait de Mme Chardin. La première dame, parce qu'il a une première épouse, elle est morte, il s'est marié, etc. Donc, on a pensé que ça pouvait être ça, pas certain, mais voilà. Donc, effectivement, on voit quelque chose qui va nous amener plus tard vers les scènes avec des petits personnages, hein, dans des petits tableaux comme celui que vous évoquiez, mais là, on reste dans des formats portraits, j'allais dire, hein, mais des portraits qui sont mis en scène. Toujours pareil. Avec toujours cette espèce de mise en scène, des portraits qui n'en sont pas, ou des scènes qui sont plus des portraits, enfin bref, toujours pareil. Vous voyez, il y en a toute une série comme ça.
Oui, avec un fond neutre, en fait.
Toujours.
Pour mettre en valeur le personnage.
Absolument. En fait, qui fait avec les personnages, qui fait avec les chaudrons et les choux. C'est... Et en ce sens, ces scènes-là, qui encore une fois sont des espèces de portraits un peu passés à l'os, quoi. Il n'y a pas, vous voyez, il y a peu de choses décrites, quoi, hein. Sont des œuvres qui évidemment font penser à ces petites scènes auxquelles vous faisiez allusion, hein, mais elles sont quand même plus sobres, quoi. Le fond, il n'y a rien, vous voyez.
Il est parfaitement en harmonie avec le personnage.
Ben oui. En fait, tu vois, dans le tableau Chardin, il n'y a rien à dire, finalement.
On voit la nature de la matière.
Oui.
C'est incroyable.
Oui, là c'est très visible dans un tableau tel que celui-ci. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire, là ?
Nature morte un petit peu plus élaborée que certaines, avec les matériaux utilisés. Là.
Oui.
Le gobelet en argent qu'on retrouve dans l'autre, le petit coffre.
C'est un peu comme des portraits d'objets.
Oui. Oui, oui, c'est-à-dire que finalement, oui, j'aime bien votre formule. C'est-à-dire que c'est presque un portrait, ça vaut là.
Oui, oui, ça me fait.
Mais ce qui me frappe beaucoup dans notre échange de ce soir, c'est finalement votre silence.
Oui. Parce qu'on regarde.
Ben voilà. Mais c'est normal. Oui. Ben voilà, Chardin, c'est ça. C'est, on a souvent dit que nature morte, c'était les peintres, enfin, la peinture du silence, etc. Et voilà. Et en fait, je trouve que le mieux pour en parler, c'est de ne rien dire. Et donc, le fait d'être silent. Parce qu'une fois qu'on a à peu près compris comment évolue la carrière de Chardin, qu'est-ce que vous voulez dire, hein, c'est vraiment un peintre du ciel. En même temps, il y a plein de remarques intéressantes. Hein, c'est ce que vous venez de dire. C'est presque un portrait, finalement. À partir d'objets, on pourrait dire. Ben, il manque le personnage. Quoi, mais il est là en creux avec ses attributs, finalement. Vous avez insisté tout à l'heure sur la touche. Et je trouve que la question de la matière est tellement, par exemple, visible dans ce petit pot couvert que vous avez là. Ou l'espèce de dégoulinure que vous avez sur la cruche derrière. Enfin. Et donc Chardin s'impose par le silence qu'il nous impose d'une certaine manière. C'est. Et on recommence. Voilà. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ça vous dit quoi ? Pardon ?
Un portrait,
l'enfant tout le temps, un portrait. Vous ne rappelez rien ?
Si, il y a un enfant tout à l'heure qu'on a vu, un garçon aussi. On avait déjà un Gabriel Bain, Godefroy.
Alors, ce n'était pas Gabriel, c'était son frère. C'est le frère du Godefroy tout à l'heure. On a vu le Godefroy aîné tout à l'heure avec son violon. Là, c'est son petit frère avec un toton, avec une toupie autour. Donc, toujours la même chose que l'on trouverait là.
Puis on retrouve les mêmes couleurs.
Ah, toujours, c'est vraiment toujours.
Toujours les mêmes couleurs.
Toujours.
Et les gens se ressemblent.
C'est moi ? Non, c'est quelqu'un. Je pense que c'est moi.
trompe, c'est moi.
Oui, bon, écoutez, c'est pas grave. Ça met un peu d'ambiance.
L'expression des visages est toujours un peu le même.
Oui, oui, oui. Oui.
Un peu sans expression.
C'est ça. Il y a une espèce d'impassibilité. Ils ne sont pas en train de se rire, ni d'hurler, ni de pleurer, ni rien. On est effectivement dans une impassibilité remarquable. Oui, absolument. Et puis voilà. Là, vous voyez qu'on arrive vers quelque chose d'un peu différent. Voilà. Parce qu'on était dans une espèce de série de portraits mis en scène, et là, on vient vers des scènes de genre. Alors, il y a des scènes de genre comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Oui. Vous les qualifieriez comment, ces scènes-là? Donc, vous voyez que c'est assez différent quand même, hein, des portraits qui, généralement, sont plus grands de taille aussi. Hein. Là, on est dans des petits tableaux comme ça. Hein.
C'est une peinture de vie quotidienne.
Voilà.
Pardon,
qu'est-ce que vous appelez une peinture de genre?
Ah, alors, ce qu'on appelle la peinture de genre, c'est la peinture qui représente des scènes de vie quotidienne. Il y a, si vous voulez, c'est d'ailleurs surtout en France, hein, au XVIIe siècle, qu'un théoricien appelé Félibien a organisé la peinture par grand thème. Hein. Alors, tout à fait au-dessus, il y a la peinture d'histoire, des allégories, des scènes historiques de l'Ancien et du Nouveau Testament, et que sais-je encore. Ensuite, cette échelle descend, si vous voulez, vers des catégories moins importantes. Alors, je vais essayer de me rappeler l'ordre, mais en dessous de la peinture d'histoire, il doit y avoir le portrait. En dessous du portrait, il doit y avoir la nature morte, en dessous de la nature morte, le paysage, ou alors c'est l'inverse, donc je révise. Voilà. Et la peinture de genre, c'est des scènes, si vous voulez, avec des personnages qui ne sont pas des scènes d'histoire. Vous représentez César en train de passer le Rubicon, c'est une scène d'histoire. Vous représentez une scène avec des gens qui jouent au billard ou des dames dans un intérieur, c'est de la peinture de genre. Vous voyez ? Il y a donc, si vous voulez, une sorte de hiérarchisation des domaines de la peinture. Et les scènes de genre sont donc des scènes qui représentent de manière très triviale des paysans dans une salle, une scène de cabaret, où là, une mère qui est en train de coudre avec sa fille qui arrive. Voilà. Donc on est là, vous voyez, devant des choses très semblables. Vous connaissez ce tableau super scène, le Bénédicité, hein. Ça vous suggère quelque chose, ces deux tableaux, d'ailleurs?
Moi, je trouve qu'ils me font vraiment penser à la peinture du Nord. Hein.
Ah oui, absolument. Là, vous avez raison d'insister là-dessus.
Du Nord, au niveau des coloris, des
bien sûr.
La disposition, il a pas fait un séjour dans...
Disons qu'il y avait à Paris, dans les collections, des quantités considérables de peintures hollandaises et flamandes. On parlait de Vermeer tout à l'heure. Hein. Il y a des Vermeer, mais aussi des Van Staal, des Teniers, etc., à l'appel dans les collections françaises à cette époque, si vous voulez. Donc Chardin, il a eu l'occasion de les voir. Donc Chardin, effectivement, est quelqu'un qui est complètement malaxé par la peinture hollandaise et flamande, la peinture du Nord, vous avez raison, qui est très, très marquée par la peinture de genre, justement. Et donc, vous voyez comment Chardin, mais très marqué également par la nature morte. Hein.
Oui.
Vous connaissez les quantités de nature mortiste hollandais ou flamand, par exemple, la Wilhelm Kalf, Otto Wenix, etc. Il y en a des tonnes. Hein. Ben, Chardin a regardé tout ça. Chardin a regardé dans les collections très nombreuses qu'il y a à Paris à l'époque, aussi bien les scènes de genre que les natures mortes hollandaises et flamandes. Et il en fait son miel et ça donne tout ça. Et souvent en pendant, c'est-à-dire que le Bénicité que vous avez là était assez vraisemblablement le pendant de la Mère Laborieuse. Et vous achetez ça, vous avez deux, voilà. Ça fonctionne très souvent comme ça. Mais là, on reste... Pardon ?
C'est très moralisateur.
Pardon ?
C'est très moralisateur, la femme qui travaille, la Bénicité.
Oui, voilà, c'est des scènes quotidiennes. Il y a une certaine dimension. Alors, je sais pas si j'irais jusqu'à dire morale, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que j'ai essayé de transposer tout à l'heure en parlant du fait qu'on était dans une bourgeoisie honnête. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, ça, voilà, c'est tout ça est très convenable. C'est pas, on n'est pas avec les fesses roses de boucher, sinon. On est d'accord, hein? Voilà. Donc tout ça est très sympathique, très convenable, très très propre, très voilà, c'est bien. Hein? La même travail, voilà. Hein?
Très
construit, voilà. On dit qu'on fait la fière, enfin voilà, tout ça. Mais on est au 18e, hein? Voilà. Et Chardin n'est pas un révolutionnaire, hein? Ça, voilà, hein? C'est pas. Et ça alors, ça vous rappelle des choses?
Les portraits, mais cette fois-ci plus en pied, quoi.
Bah, moi, ça me rappelle beaucoup la peinture que je vais montrer tout à l'heure dans la sélection des 12, c'est cette femme assise dans son fauteuil. C'est exactement. D'abord, c'est le même type de format, petit format, sauf que là, on n'est plus, comme dans les scènes précédentes, dans ces scènes avec des femmes besogneuses qui étaient pour leurs enfants. On est passé là dans le salon où une jeune femme un peu convenable. Là, qu'est-ce qu'elle fait là?
La musique.
Elle fait la musique, mais elle fait quelque chose de particulier aussi.
Elle écoute le serin.
Il y a un oiseau dans la cage. Absolument. Elle écoute le serin, mais elle essaie aussi peut-être d'y répondre ou de faire que le serin réponde à sa serinette.
Et elle attend la réponse.
C'est ça. Elle regarde du côté de la cage, donc il y a un côté rapport, comme ça, entre la musique de l'oiseau et la musique de la dame. Donc c'est, et ça fait beaucoup penser à la scène de lecture que je vais montrer. C'est la même période, le même genre de tableau. On entre dans le salon un peu bourgeois de ces personnes.
Tiens,
oui.
Bien bon.
Vous voyez quand même que tout ça est assez cadré, mine de rien. Vous voyez comment la carrière de Chardin, elle s'organise bien autour des grands thèmes qu'on a vus tout à fait au départ. Ce n'est pas quelqu'un qui mélange en permanence tout. Il y a une espèce de phase comme ça. Alors, qu'est-ce que vous diriez?
Naturellement.
Oui.
Je trouve qu'on va. Si on prend par exemple la raie,
ouais,
ou d'autres. Un autre qu'on a vu. Celui-là, si on prend que les animaux sans regarder, on a l'impression d'une œuvre abstraite.
Oui, absolument. De plus en plus, d'ailleurs. Oui, absolument.
Ouais. Moi, je dirais le poil et la plume.
Oui, oui.
On voit le poil et on voit la différence, ouais, entre le poil et la plume.
Mais ce que vous disiez par rapport à l'abstraction est assez vrai, enfin. Je sais pas, des détails comme ça, comme, regardez les brins de paille à l'arrière, mais quand vous voyez de près, c'est évidemment de plus en plus abstrait, de plus en plus vide, pourrait-on dire. Ah oui, oui. Et pourquoi d'ailleurs? Pas forcément.
Sur le poids des têtes sur la table.
Oui.
C'était dans la cuisine, il allait dans les cuisines.
Oui. Mais enfin, c'est un intellectuel aussi.
Il
ne
voit plus rien, non?
Il avait des lunettes, vous l'avez remarqué. Hein,
oui.
Donc, je ne suis pas sûr qu'il ait une vue super. L'idée sur les que les peintres peignent flou parce qu'ils ont des problèmes de vision seulement est peut-être un peu. Voilà, un peu trop simple. Quoi. C'est-à-dire que c'est aussi certainement une volonté de sa part. Voilà, il y a. Alors, ça, peut-être, ça rentre en ligne de compte, mais c'est certainement pas le seul élément. Non, mais il y a aussi dans un tableau tel que celui-là, il y a eu des. Ce tableau est un des plus célèbres, hein, de Chardin. Il y a eu des pages écrites sur aussi la dimension métaphysique de Jean de Tableau. Parce que ça représente la mort. Et vous l'avez dit, il y a plein de. Alors, c'est pas seulement parce qu'il est dans la cuisine, il y a plein d'ordres qui représentent des lapins morts, parce que c'est dans la cuisine. Oui, mais Chardin est en même temps quelqu'un qui pense, si vous voulez. Et quand il montre des choses comme ça, c'est aussi une sorte d'interrogation, parce que. Ces petites bêtes, peut-être qu'elles seraient mieux vivantes dans la garenne. Quoi.
mangerait plus.
Pardon ?
Il n'y aurait plus rien à manger.
Bon, on peut peut-être manger d'autres choses.
Oui, voilà.
Et donc, voilà, il y a aussi chez lui une sorte. En fait, c'est une Pietà. C'est une Pietà. Je le force de trait. Mais c'est Pierre Rosenberg, qui est le grand spécialiste de Chardin, hein, écrit des pages là-dessus, sur la dimension, encore une fois, de représentation de la mort chez Chardin. Il ne fait pas ça avec des cadavres humains, mais des cadavres d'animaux. Et c'est peut-être aussi une manière de nous toucher, aussi.
Il y a plein de peintres qui ont fait des natures mortes avec des animaux morts, notamment chez les peintres hollandais. Je ne sais pas si on est parti jusqu'à la métaphysique.
Peut-être parce que ce n'est pas présenté de la même manière, justement, oui. Cette façon, finalement, je pense qu'on a un petit... Enfin, c'est peut-être là qui vous regarde plus. Mm.
La réécorchée aussi.
Pardon ?
La réécorchée aussi.
Oui.
C'est quand même pas...
Je trouve aussi. Et précisément, chez les Hollandais et les Flamands, il y a quelquefois, je pense à Snijders, par exemple, hein, ou à David de Hem, etc., il y a finalement une telle mise en scène glorieuse que finalement, les animaux morts participent de cette espèce de tourbillon baroque, en quelque sorte. Là, tout le baroque est éliminé. Quoi. On est là dans des cadavres d'animaux. Quoi. Et alors après, bon, il y a les gens qui sont sensibles à ça et ceux qui ne le sont pas. Hein. Mais voilà, en tout cas, un certain nombre de critiques sur rien de là ont beaucoup, beaucoup souligné cette dimension qu'il y avait chez Chardin à éliminer dans ses natures mortes toute la dimension de scénographie grandiose qu'il avait au départ. C'est quand même très différent du premier tableau que je vous montrais tout à l'heure. Voilà. Pour finalement nous ramener à quelque chose, une sorte de vision de la mort très directe. Quoi. Alors, il y a très peu de choses comme ça.
Ah oui.
Il y en a un. Voilà. C'est le ou quelque chose de chambre. Je n'en passerai pas d'autres.
Voilà. Il a une raison de ne pas persévérer. Non, par rapport au reste.
Oui, enfin moi j'aime beaucoup, mais voilà, c'est
une chardinerie.
Oui.
Non, ce qui est bien, c'est toujours comment il prend le matériau.
Ah oui.
C'est ça qui est.
Et le fond, vous avez vu, hein?
Oui, le fond, c'est.
Et le matériau, là, et même les fleurs, c'est.
Ah oui, enfin,
moi, je trouve ça ébloui. Je trouve que c'est un peintre ébloui. Plus on le regarde, plus on est stupéfait. Enfin, moi, je trouve qu'il est stupéfiant. C'est. Alors voilà.
Encore une grande mise en scène, là, oui.
Ouais. Pour qui, à votre avis? Non, pas pour l'armée. Enfin, ou pour l'armée si on veut, mais.
Pour un officier supérieur.
Oh, très très supérieur.
Pour le roi.
Pour le roi. Je crois que c'était pour le château de Bellevue, précisément. Hein. Donc, effectivement, il y a les. Attention, la musique militaire, la musique civile. Hein. De grands termes qui sont entrés au Louvre assez récemment, d'ailleurs, hein, et qui montrent, j'ai dit tout à l'heure, la commande. Et ça, vous en diriez quoi?
C'est agréable à regarder.
Une mise en scène. Oui, c'est ça. C'est là où ce Chardin, finalement, nous étonnera toujours, je trouve. Parce que, on a notre beau schéma, il commence par le compliqué, il va vers le simple. Hein. On a vu que c'était quand même plutôt ça que l'inverse. Mais on voit qu'il donne des coups de canif dans le contrat. Parce que là, effectivement, on a un tableau qui, je trouve, quelque part, rappelle un peu l'arrêt, vous voyez. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. On n'a pas l'impression, si vous voulez, si on voit ça et qu'on ne sait pas ce qui est passé avant, on est un peu surpris de voir que ça arrive après ces tableaux épurés, où il n'y a presque plus rien. Vous voyez, donc, il lui arrive de récidiver, en quelque sorte. C'est pas une carrière comme ça, si linéaire que ça. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, au départ, il fait il fait des natures mortes, après il se met à faire des portraits en bus, puis après il fait plutôt des scènes avec des vers laborieux, etc. Puis il s'intéresse aux femmes un peu bourgeoises, paf, il revient aux natures mortes. Vous avez vu comment ça se passe? Il y a une espèce de phase comme ça, mais un de ces phases, il revient vers des choses. Il y a les commandes qui font qui va un peu changer d'aiguillage, mais lui par lui-même, il fait aussi ce genre de choses. Et là, on est en 73. En 73, pardon.
Elle a vécu d'un côté.
Donc vous voyez revenir vers quelque chose de...
simple.
Ouais, ouais.
Quand même rechercher
qu'est-ce
qui met le côté.
Oui.
Il y a quand même une mise en scène,
la composition est parfaite.
Oui. Mais c'est
moins.
La fleur sur la
brioche. Ouais. Fleur d'oranger, je crois.
La fleur d'oranger,
mais
les feuilles sont bien
sombres.
Oui, avec
c'est
la fleur de la fleur.
La fleur en
bouton, c'est ça. Ah, c'est vraiment. Et alors, ça c'est, on arrive vers la fin.
Là voilà. Le même petit nœud bleu.
Ouais.
Ils sont avec le bleu là. Ils sont
raccord. Les yeux passés. Alors ça c'est Stèle et ça.
On voit la fatigue.
C'est lui.
Ah, il avait donné le
petit nœud. Ça vous inspire quoi ces deux portraits là? Oui. Ouais.
Oui, c'est une visière.
Ouais. Une espèce de visière, oui, ce qui lui permet de mieux peindre, de mieux voir. Sans doute.
Mais la soie, la peau, c'est incroyable.
Ouais. Au pastel.
C'est des pastels.
Ouais.
C'est un champion.
Ah ouais, c'est extraordinaire. Ouais.
Il aime se regarder. Hein.
Pardon ?
Il aime se regarder. Pour faire autant de détails sur sa peau, etc.
Oui.
Ça, c'est extraordinaire.
Oui. Bah, le pratique, c'est que quand on est un peintre, le premier modèle qu'on a, c'est soi-même. On n'a pas besoin d'en faire venir un. C'est ce qu'a fait Rembrandt toute sa vie. Sauf que justement, Rembrandt l'a fait toute sa vie. Rembrandt, du début de sa vie, quand il a 20 ans, jusqu'à la fin de sa vie, quand il en a 65, il se représente lui. Et d'ailleurs, c'est facile parce que chez Rembrandt, on voit le bonhomme qui vieillit. Quoi. Chez Chardin, vous n'avez aucun portrait jeune. Tous les portraits, il n'y en a pas tant que ça, soit à la fin. Tous. Et c'est des portraits différents. Là, il ne se met plus en scène. Hein. Lui, comme son épouse, c'est... Alors là, le portrait traditionnel. Voilà, une réalité brute. Il n'a pas besoin de jouer au toton ou de jeter un bouquin. Hein.
Puis Rembrandt, il se déguisait.
Pardon ?
Rembrandt, il se déguisait. Il
avait des... Ah oui, alors... Il, Rembrandt, il est capable de tout. Soit de faire des portraits très simples, soit très mis en scène, effectivement.
Tandis que là, c'est...
Là, c'est contrairement à ce qu'il a fait avant.
Voilà, c'est Chardin,
on ne se promène pas tout à l'heure avec un chapeau comme ça.
Alors, bien sûr, on va aborder, maintenant qu'on a vu toute la carrière de l'artiste, on va aborder la partie oui-non, et on va voir ce qu'il en est. Mais avant, vous savez, je vous montre toujours une peinture autour de laquelle on discute, mais là, il n'y aura peut-être pas grand-chose à dire. Quelqu'un qui par nous ?
Par souscription.
Voilà. Moi j'ai souscrit.
Moi aussi.
Très bien. Moi je tenais. J'ai pas vous. Hein. Je trouve que c'est un tableau qui est extraordinaire. Moi je le trouve incroyable. C'est un tableau stupéfiant. Moi quand j'avais vu l'exposition Chardin dans les années 80, c'est pas possible. Je trouve que c'est un tableau incroyable. Et vraiment, pour moi, il fallait. Donc il est au Louvre maintenant, ouais. Tant mieux. Vous diriez quoi de ça?
It is perfect.
Pardon?
Parfait.
Il est bien dans
la construction, dans la matière.
C'est ça. C'est ça. Je crois que tout ce qu'on a dit est là. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est presque décourageant, quoi. Parce que, au niveau de la forme, vous avez un triangle rouge, quoi de mieux. Vous avez un rectangle un peu nacré, un truc en biais et trois ronds. Voilà. le tout sur un machin horizontal.
Souvent, il y a
pas. Très souvent. C'est donc une espèce de ligne comme ça. Ce qu'il y a de fou, mais dès le départ, vous l'aviez indiqué, décidément, c'est la texture, la matière, cette espèce de labeur qu'il a eu à faire tout ça. Ça, c'est inouï. Il est dans le pastel comme dans la peinture. Hein,
c'est j'ai velouté.
Ah oui, c'est voilà, velouté.
C'est un grand tableau.
C'est pas très grand, c'est grand comme ça.
Il était où avant?
Pardon?
Où est-ce qu'il est où avant?
Dans une collection privée, la collection Marcy, Eudox Marcy. Hein. Ouais. Qui est depuis le XVIIIe siècle. Hein. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est un tableau qui a été acquis en vente publique grâce à une souscription. Enfin, plus exactement, il est passé en vente publique, il a été acheté par un musée américain. Vous savez qu'il y a la possibilité de bloquer. C'était le grand temps Simone, Museum à Pasadena, qu'il avait acquis. Mais il y a la possibilité de bloquer certaines œuvres, c'est ce qui a été fait. Et on a 2 ans pour trouver le financement pour l'acquérir pour les collections nationales. Et il y a donc une souscription, le tableau a été acquis. Voilà. Donc il est au Louvre maintenant. Et voilà, tant mieux. On n'est pas obligé de garder tout en France, on n'en finirait pas. Puis c'est bien aussi que des œuvres extérieures viennent en France. Voilà, aussi des gestions qui se passent. Mais, enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cela tellement formidable. Quoi.
Ces fraises n'avaient rien à faire à
passer des. Sans doute. Enfin voilà, je trouve ça un tableau formidable. Je trouve qu'il est. Enfin, moi, il m'émeut complètement. Voilà. Mais chacun a son truc, bien des frères. Alors, on en vient au oui-non. Et maintenant que vous possédez votre jardin, ça va être... Ah oui, pas chauffant. Je le sens. Allez, eh ben on s'y met, on ne recule pas devant l'obstacle.
Oui,
je ne peux rien vous cacher.
Oui, j'ai une petite question. Vous parlez souvent de la taille des œuvres et vous montrez tout petit, alors d'habitude, on a toujours des grands.
C'est souvent petit jardin. Ouais. Il y a quelques tableaux grands, par exemple le portrait de Havel. Et ça, c'est assez grand. Hein. Certains des portraits scénographiés en buste. Voilà, l'enfant Toton, ça fait ça. Son frère aîné avec le violon Godefroy, il fait ça. Voilà. Donc les portraits en buste un peu. Mais autrement, Bénicité, tout ça, c'est comme ça. La Fontaine, c'est un tableau grand comme ça.
Il n'a pas fait de grands tableaux.
Sauf quelquefois, c'est un peu grand aussi, les dessus de porte et des commandes. Voilà. Ils sont pas non plus gigantesques. Mais c'est pas quelqu'un qui fait du 2 mètres sur 2. Chardin, c'est pas son truc. Non. Je crois que le portrait de Havel est un des plus grands. Il doit faire ça à peu près. Et pour Chardin, comment ça faire ça? C'est pas quelqu'un qui fait des grands formats. Non. Bien. Écoutez, ça a bien commencé. Et ça va bien continuer.
Ça se pourrait.
Ah non, mais moi, c'est pas ça pourrait, c'est chaud. Ah, on s'engage.
Oui.
Il n'y a que le vert qui est comme d'habitude. Ouais. Le vert, on voit pas la rouge à travers le vert.
Alors, c'est chardin ou c'est pas chardin?
C'est un copieur.
Un copieur. Ah, un copieur.
Un
pasticheur.
Oui, parce qu'il n'y a pas le même vert.
Non, moi, je.
Hélas, quelques formes, mais seul contre tous. Et on est vaincu. Mais c'est pas toujours le cas. Roland de la Porte. Alors, Roland de la Porte n'est pas un copieur. Il est très différent, effectivement. Mais on les a beaucoup rapprochés. Hein. D'ailleurs, ce tableau-là, qui est entré au Louvre avec la collection Lacaze, est entré au Louvre attribué à Chardin. Pas très étonnant. Ça rappelle les Chardin du départ. Rappelez-vous la nature mentuelle, le chou, les harengs, etc. On est un peu dans le même truc. Mais la touche n'est pas la même. Hein. Là, c'est un petit piège. Hein.
Non, c'est Chardin.
Non.
Oui,
non,
il a mis le lapin en crucifix.
Oui, mais moi, je
crois
bien.
Oui, il y a
des lapins. Et puis, la couleur du fond,
il y aurait une dame, s'il y avait Chardin.
Non,
c'est marqué.
Oui, bah oui.
C'est marqué Chardin.
Ah, mais non, mais vous l'avez le truc le lapin.
Oui, oui, il y a des petits trucs comme ça qui. Puis là, j'ai pas vu de cache parce que bon.
Ah bon, on l'a pas vu.
Mais c'est oui, vous l'avez pas vu tout de suite. Donc c'est Chardin. Hein. Mais c'est vrai que c'est un Chardin assez tôt, un Chardin où il met encore pas mal des choses en scène. C'est un Chardin encore assez scénographié. C'est simple, mais c'est un Chardin qui est encore dans ces deux pics-là.
Non.
Vous êtes sûr? Parce que ça rappelle quand même beaucoup les Chardins du départ.
Non, mais c'est trop.
J'aurais insisté. Hein.
Non, il n'y a pas de chien.
Il n'y a pas de chien.
Si, il y a un chien.
Ah, alors en plus, il y a un chien.
Il y a des fleurs.
C'est votre dernier prix.
Oui.
Bon.
Ah,
des portes, c'est lui dont je voulais vous faire trouver le nom tout à l'heure.
Ah,
hein. Pardon.
Il n'aurait pas
dû
le connaître.
Ben. À vrai dire, Chardin, vraiment, au départ, a beaucoup regardé de ce côté-là, notamment du côté des portes. Hein. Et voilà. Mais en tout cas, c'est lui, tout à l'heure, quand on parlait d'Oudry, on a un autre dont je voulais vous trouver. C'était lui. C'était pas.
C'est Chardin.
Vous rapprocheriez ça de quoi?
Flamand.
Oui. Flamand, d'accord, mais dans l'œuvre de Chardin.
C'est la
voilà.
Le personnage derrière.
Ah oui, ça c'est très marrant. Effectivement, il y a, vous voyez, dans l'entrebâillement de la porte, un autre personnage.
Qui est
Et oui, donc vous rappelez, procheriez ça de la personne qui est ravote ou du bénédicité, de ce genre de choses. On est d'accord. Hein. Sauf que. C'est bel et bien Chardin.
Ah, oui, c'est
des
chats.
Eh oui, chat.
C'est marqué dessus.
Mais on aurait dit cache plus.
Oh, mais il plus des caches.
Mais oui, en haut à droite. Moi, j'avais pas vu, vous voyez. Bon, ben, c'est Chardin.
C'est pas évident.
Vous parliez de la personne qui est à l'arrière du tableau précédent, et c'est traité de la même manière. C'est-à-dire que ça pourrait être à l'arrière d'une scène. C'est vraiment, vous rappelez, hein, c'est vraiment le même genre de choses, quoi. Hein, voyez ça derrière. Hein, c'est aussi synthétique que ça, je trouve. C'est marrant. Sauf que là, ça fait un tableau tout petit. Bon, et alors?
Non.
Ah.
Non, les pommes, il ne les fait pas comme ça.
Il ne fait pas comme ça, les pommes.
Non.
C'est pas les pommes de chambre.
Non.
Donc j'entends non. Bravo. Toujours de la porte. Non, c'est l'orgeat.
Chardin,
typique.
Avec le livre, oui.
Typique au niveau de la façon de représenter, mais typique au niveau de quoi aussi?
Le visage,
le portrait. Et puis le thème. Hein, c'est pas le premier dessinateur qu'on voit. Donc on a là un Chardin très très typique, qui n'est pas le Chardin.
Là j'étais sûr,
je me suis dit là c'est et bel et bien quoi.
Vous assistez toujours.
Oui. Non mais c'est aussi bon jeu. C'est parce que c'est toujours rigolo de se planter. Mais c'est aussi pour je crois que mine de rien, on apprend plein de choses, vous voyez, sur la façon dont les choses s'organisent, vous voyez. En regardant comment une œuvre qui a l'air d'être Chardin ne l'est pas, comment c'est plutôt l'épicier, etc.,
notre puzzle sur la peinture du XVIIIe siècle en France se complète. Oui. Et on continue d'ailleurs.
Oui, jardin.
Ouais, c'est du jardin.
C'est du jardin.
Non,
c'est pas une dame. Non, parce que les blancs, c'est pas les blancs chardins, ça.
C'est une autre femme.
Non, c'est pas
un
chardin.
Et c'est un peu fouillis, mais plus en scène, mais quand.
Lui, c'est trop fouillis pour être chardin.
Oui.
C'est ça.
Oui, non, mais même
j'ai Michel.
C'est une peintre femme.
Une peintre femme.
Oui, mais j'ai. Non, et puis le buste, le blanc, tout ça, il fait pas pareil. Il peint pas comme ça, puis la tête.
Donc ça fait penser aux natures mortes de Commande de Chardin, mais c'est pas lui.
Non.
C'est ça. Trop fouillé, et peut-être un peintre femme, c'est ça. Bravo, Michel.
Ah,
bien. Ah,
elle s'est pas représentée dans la tête, là-bas. C'est pas
on l'a dit, mais c'est... Très important peintre, ça.
Oui.
Bon.
Oh, elle avait fait des natures mortes.
Ah oui, c'est merveilleux.
Oui. Ça, c'est Chardin.
Oui, c'est Chardin. 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 Visage un peu impassible.
Voilà, donc Chardin, sans problème.
Oui, visage.
Et pour une fois, c'est vrai.
Comment ça, pour une fois? Oh, c'est super. Non, ça fait un peu des grands effets.
Vous charriez, vous charriez.
Non,
c'est pas ça.
Pardon.
Ah oui, je suis
bien
d'accord avec
vous. Pourtant, les dents
de l'or, non. Non.
Mais le pain n'est pas le même.
Moi, je dis, non, il a des niches. Lui, là,
mais la représentation des animaux morts est différente.
Différente.
C'est celui qu'on a vu tout à l'heure.
Alors, c'est qui?
La porte.
Oui, avec le pain, la porte, les couleurs.
Laurent. Roland de la porte, vous pensez à ça?
Oui,
Roland
de la porte. Ah, c'est
pas Chardin.
Pas Chardin. Oui, non, c'est bien. J'ai pas compté, mais enfin, pour l'instant, c'est pas trop mal. Hein. Oui. S'il y a eu un bon raté.
C'est très bien.
Oui, ça gère.
Oui. Ah, c'est vrai qu'il y a un côté un peu 19e, je ne sais pas avec vous. Hein. Les gens, les réalistes du 19e ont adoré Chardin. Chardin est très les concours Diderot, alors au 18e, n'en parlons pas. Hein. Alors. Bravo.
Non.
C'est bien, vous commencez à avoir l'œil, hein. Enfin, vous commencez, vous continuez. Hein. Encore Roland de la Porte. Je crois qu'au bout d'un moment, ça, hein, on voit.
Oui.
Chardin ?
Oui.
Pas sûr.
Bah, sûr.
J'ai
hésité. C'est le bénécité, vous voyez.
Avec les robes blanches.
La mère laborieuse.
Les coiffes aussi.
Ouais.
Non,
c'est too much. C'est trop.
C'est pas les couleurs.
C'est pas les couleurs, c'est trop. Et c'est même pas celui du départ.
Non.
C'est vous gris.
De la porte.
Donc c'est pas de la porte, il y a de la porte et des portes. Il y en a deux. De la porte, c'est un nature mortiste de la fin du 18e. Des portes est un nature mortiste, notamment du début du 18e, en gros. Bien, très bien.
Ah, possible.
Sur les
marrons.
Non, c'est pas
possible. Non, je vous inspire.
Non, des érections.
Donc ce côté direct, sauf autoportrait, oui. Sauf les autoportraits de la femme. Mais pas dans les peintures. Donc c'est plutôt oui ou plutôt non?
Non.
Plutôt non.
Oui.
Ah. Il y a quelques oui qui pointent et qui ont tort. Car c'est Étienne Jour. Vous savez, c'est un tableau qui est quasi contemporain du tableau que je vous ai montré à la fin, vous savez, avec un huilier, une assiette, où on a dit que, à la fin de sa vie, Chardin revenait vers des compositions un peu compliquées. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ben ça, ça fait partie de ça aussi. Parfois, il revient vers des compositions plus complexes.
Je
crois que
c'est la
table
et la
main.
Oui,
là,
le bocal de
Rive,
là.
Le bocal,
c'est le même
que tu as donné. Oui. Non, le pot.
Oui, mais un pot.
La soupière ou je ne sais pas
comment. Elles sont à l'intérieur. À l'intérieur du bocal, il y a des olives.
Non.
Eh bien si, mais c'est un tableau...
Il n'était pas en forme.
Non, je crois surtout que c'est un tableau qui est un peu abîmé. Je crois que c'est un tableau qui a été autrefois un peu... je crois que et chez Chardin, vous voyez, tous les glaciers, c'est très important. Et là, je crois que c'est... Et là, c'est un tableau qui a beaucoup, beaucoup pâti.
Oui,
je pensais que vous diriez non, mais...
Non.
Vous aviez raison. Bon, bah écoutez, c'est presque un sans faute. Hein. Il y a eu quelques petits... Hein, mais en gros, quand même, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est mieux. Hein. Progresse. Peut mieux faire toujours. Alors, vous savez que je termine toujours par une sorte de petite virgule, une sorte de synthèse, avec des œuvres un peu spéciales à côté, ou qui permettent de finalement réunir un peu tout ce qu'on a pu dire. Là, il y a deux tableaux qui sont très spéciaux dans l'œuvre de Chardin, et qui, je trouve, correspondent bien à cette espèce de fin d'atelier. C'est ce tableau-ci, au revoir, ce tableau-ci, le singe peint, et son pendant, qui représente un singe antiquaire. Curieux, ça.
C'est au milieu, à peu près, de sa vie.
Ben oui, ouais. Mais je sais pas, ça vous inspire quelque chose, tout ça?
De qui se moque-t-il?
Il se moque.
Alors, c'est vrai qu'il se moque.
Oui.
De qui?
De lui.
Peut-être de lui-même déjà. Il se moque déjà de lui. Et puis ça vous inspire des choses, ça, ce genre de peinture?
On dirait qu'il se libère, la
caricature. Oui, il y a quelque chose. Oui, c'est une caricature, il se libère quelque part. Hein. Il se lâche un peu, oui, peut-être. Et là aussi, ça vous rappelle des trucs, des choses?
Oui, oui.
Pardon? Alors, ce serait plutôt dans l'autre sens, d'ailleurs.
Ah oui,
Goya a fait des singes comme ça?
Non.
Je ne crois pas. On ne voit pas. Mais on ne voit pas tout. Ben moi, ça me rappelle la peinture flamande et hollandaise du 17e. Il y a en Flandre et en Hollande, surtout en Flandre, d'ailleurs, au 17e siècle, de très nombreuses peintures de singes. David Tenney en a fait plein. Hein. Donc là, c'est une référence évidente de Chardin à cette peinture qui est pour lui une sorte de matrice. Quoi, hein. La peinture hollandaise et flamande, c'est vraiment le vivier dans lequel il a pêché. Quoi. Et je crois que ce tableau le montre vraiment très très bien, quoi, ces tableaux. Et vous voyez que c'est un peu spécial dans son œuvre. Et en même temps, on le reconnaît, si on veut. Mais cette manière de caricaturer l'humanité, en commençant par lui, ils ne se prennent peut-être pas si au sérieux que ça. C'est finalement assez, assez typique.
Mais surtout qu'il a fait ça en fait au milieu, puisqu'on voit 1735, ouais. C'est un petit peu comme ouais. Les tableaux qu'on a vu.
Mais ça fait penser à ces scènes de genre humaines, que j'ai vu tout à l'heure, mais qui là sont jouées par des singes.
Oui, ouais, mais c'est. Et puis, la touche est plus
oui.
libre. Enfin,
beaucoup plus libre.
Oui. Ouais. Oui, parce que quand on voit le support rouge, là.
C'est là, vous disiez tout à l'heure, l'un ou l'une de vous disait, il se lâche, il se libère. Il y a de ça, évidemment. Voilà, je voulais passer au dernier, parce que c'est deux œuvres spéciales, particulières, singulières, un peu uniques. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de Chardin, je crois qu'après, Bacon et Boucher, on commence à voir. À la fois prochaine, c'est Fragonard. Alors, on avait déjà, vous vous rappelez, il y a 15 ans, je crois.
Dans les premiers ateliers.
C'était le deuxième. Parler sur Fragonard, donc là vous allez tout savoir. Sans problème. Oups là. Alors c'est sans doute